le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 1er. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 1er. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 1er. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Bon, la vendredi soir, il a été question de la sagesse de Dieu comme d'un grand trésor, d'une possession désirable, que nous sommes encouragés à rechercher, à poursuivre et à demander dans la prière, à rechercher pour notre vie chaque jour. Il est encore ici question de cette sagesse que Dieu tient en réserve pour ceux qui lui appartiennent, d'une sagesse qui n'est pas une sagesse simplement humaine, ce n'est pas le fruit de l'école de la vie, simplement dans le monde, il y a des incroyants qui acquièrent une certaine expérience, ce que l'on appelle parfois la sagesse. Il est bien sûr ici question de la sagesse divine, c'est celle que Dieu nous communique, et c'est celle que nous pouvons trouver en lui lorsque nous avons placé notre foi dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus devient alors notre Sauveur, nos péchés sont pardonnés, le Seigneur nous ouvre le ciel, nous réconcilie avec lui, nous donne une véritable espérance, non seulement pour cette vie, mais encore pour toute l'éternité. Y aurait-il quelqu'un, ce matin, qui n'a pas encore fait la paix avec Christ? Venez au Seigneur, venez tel que vous êtes, confessez-lui vos fautes, vos manquements, confessez-lui non pas à un homme, non pas à un confesseur, un homme d'église, mais dans un tête-à-tête avec Dieu, au fond de votre conscience, reconnaissez votre besoin de pardon, de purification, et le Seigneur vous fera grâce. Et une fois devenu notre Sauveur, le Seigneur devient aussi notre sagesse. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Il nous donne dans la vie de nous conduire, non plus comme des insensés, mais comme des sages, de ne plus vivre comme auparavant, lorsque nous vivions sans Dieu, au gré de nos volontés, parfois incontrôlables, de nos passions, mais de conduire notre vie selon ce que désire pour nous le Seigneur. Alors, dans ce texte du livre des Proverbes, on voit que la sagesse se manifeste de diverses manières, que son fruit affecte notre vie intérieure et nos actions. Elle va influencer ce que nous sommes devant Dieu, mais aussi devant les hommes, devant les autres. Avez-vous remarqué ce verset 3, où il nous est dit que le fruit de la sagesse, la bonté, la fidélité, eh bien nous sommes appelés à les lier à notre cou, comme un ornement, comme un bijou qui se voit, et aussi les graver sur la table de notre cœur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est un travail que Dieu seul accomplit dans notre conscience et dans notre intérieur. Il est question, au verset 4, de la grâce et d'une raison saine acquise aux yeux de Dieu, mais pas seulement, aussi aux yeux des hommes. Chercher à paraître sage devant les hommes est une bonne chose, mais encore faut-il que ça corresponde à une réalité, quelque chose que Dieu a imprimé au fond de nous. À l'inverse, ne disons pas, moi j'aspire à être sage devant Dieu, et tant pis pour ce que tous les hommes en pensent. Non, non, non. Vous voyez, il nous est dit que, par exemple, cet homme éminent, qu'était le prophète Samuel, était agréable à Dieu et aux hommes. Et que le Seigneur lui-même croissait en stature, en sagesse, en grâce, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Il y a certes des cas où un chrétien sera appelé à préférer, à choisir ce qui est agréable à Dieu plutôt qu'aux hommes, lorsque notre entourage, les hommes, font opposition à ce que Dieu souhaite et demande. Mais, vous voyez, être chrétien, ça n'empêche pas de chercher, dans la mesure où c'est bien, dans la mesure où c'est louable, bien d'être aussi agréable aux hommes, portant ainsi un bon témoignage à celui qui nous a sauvés. Alors cette crainte, cette sagesse, elle se manifeste de diverses manières. On pourrait retenir quelques pensées de notre texte, surtout celle-ci. La sagesse de Dieu va nous amener à reconnaître Dieu dans toutes nos voies. C'est-à-dire, nous l'avons lu, ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, notre propre réflexion. On aura dit, il a été question de l'intelligence, de la réflexion, du bon sens. Un chrétien est quelqu'un qui réfléchit, qui recherche le bon sens. Les chrétiens ne sont pas des gens mystiques, ils ont une foi véritable, mais ils pensent, ils réfléchissent. Cela dit, ils ne se confient pas dans leur propre réflexion. Vous voyez, il y a l'Écriture qui nous est laissée, il y a le secours du Saint-Esprit dans notre conscience aussi qui nous est donné pour que notre réflexion soit guidée, sanctifiée et nous permette d'effectuer de bons choix. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais Dieu dans toutes tes voies. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître Dieu dans toutes nos voies? Ce texte nous parle de la crainte de Dieu. Et reconnaître Dieu dans nos voies, c'est avoir la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu. D'ailleurs, c'est le commencement de la sagesse, nous dit la Bible. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ceux qui l'observent ont une raison saine. C'est aussi le fruit de la sagesse. Dans le livre des Proverbes, il a dit que le fruit de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et même, elle nous permet de croître dans la sagesse, puisqu'il nous est dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Voilà, craindre Dieu. La crainte de Dieu est importante dans le livre des Proverbes. Elle apparaît à plusieurs reprises. Elle nous est présentée au début du livre des Proverbes comme le commencement de la sagesse. Le livre des Proverbes nous dit que la crainte de Dieu, c'est aussi la haine du mal. Elle nous dit encore que cette crainte augmente les jours, qu'elle est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Par elle, par la crainte de Dieu, on se détourne du mal, et cette crainte, elle mène à la vie. On comprend que c'est quelque chose de précieux, puisqu'il nous est dit encore que mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor avec le trouble. Elle se choisit, il est question de choisir la crainte de Dieu. On peut choisir délibérément de ne pas faire cas de Dieu. Il y a des gens qui disent « moi, ni Dieu, ni maître », mais on peut choisir de dire « j'ai besoin du Seigneur » et l'ayant choisi, je choisis de le reconnaître dans toutes mes voies. Elle se comprend, les questions encore dans le livre, des proverbes de comprendre la crainte de l'Éternel. C'est le fruit d'une compréhension, de l'étude, de l'Écriture et d'un cœur qui recherche à comprendre ce qui est le meilleur et qui a foi en Dieu pour le lui montrer. Voilà, elle produit donc un fruit, et il n'est pas étonnant qu'il nous soit dit « heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte », mais celui qui endurcit son cœur, celui qui rejette la crainte de Dieu, il finit inévitablement par tomber dans le malheur. Voilà, c'est la crainte de Dieu qui nous garde. Bien sûr, il n'est pas question de la crainte de Dieu comme d'une crainte servile, la peur du châtiment, encore moins dans la vie du chrétien, la crainte perpétuelle de la condamnation de Dieu. Ce n'est pas du tout sur cette base-là que Dieu veut traiter avec nous. Non, il nous est dit, vous voyez, ça ne se contredit pas, que l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire qu'il y a une crainte à laquelle Dieu nous encourage, c'est une crainte qui consiste à lui vouer un grand respect, à reconnaître quelle est la grandeur, la puissance, la majesté de la personne de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, d'avoir conscience de sa présence dans le monde et plus particulièrement dans l'Église et dans nos vies en tant que chrétiens. Et cette conscience nous amène à retenir nos actes, nos pensées, à ne pas nous laisser conduire par nos passions, nos pulsions et nos désirs, mais à rechercher l'aide de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur du châtiment. Il me vient ce témoignage d'un jeune homme qui n'était pas chrétien. Il venait à l'église depuis plusieurs mois et un jour, c'était la fin d'une réunion de prière, le pasteur a fait cette annonce terrible. Voilà, tel jeune qui vient à l'église, qui était chrétien, qui a été baptisé il y a quelques mois, eh bien, il est mort ce week-end. Il a été étouffé par son chauffage qui a dégagé des émanations de gaz. Et le matin, on ne l'a pas vu au travail, il était militaire. On a donc envoyé des gens chez lui et quand on est arrivé, on a trouvé ce jeune homme mort. Ça a été comme un choc électrique. Ce jeune homme avait 24 ans. Bien sûr, les chrétiens ont été saisis de stupeur en entendant ceci. Et il y avait ce jeune homme qui était au milieu de l'auditoire. Il fréquentait les réunions de l'église, mais il n'avait jamais apporté sa vie à Dieu. Il n'avait jamais mis sa vie en règle avec Dieu. Et il raconte que pour lui, ça a été un véritable choc électrique. Il est rentré chez lui, il n'a pas pu dormir. Il était terrifié à la pensée de la mort et il prenait conscience que ce jeune homme qui était chrétien était parti dans l'éternité, mais que lui n'était pas prêt et que s'il venait à suivre le même chemin et nul n'est maître de son destin, eh bien il basculerait vers la condamnation éternelle. Et ça, ça l'a empêché de dormir. Une nuit, deux nuits, trois nuits, d'éprouver les plus grandes difficultés à trouver le sommeil. Et ce jeune homme, le samedi soir, il découvrait la Bible, il commençait à la lire depuis quelques mois, a ouvert sa Bible dans la première épître de Jean, et je ne sais pas s'il faut décrire ce qui s'est passé comme un acte surnaturel de Dieu, Dieu agit dans sa providence de manière bienfaisante et mystérieuse. Les regards de ce jeune homme se sont posés sur ce verset que nous avons cité, « L'amour parfait bannit la crainte. » Et il dit, ça a été, je n'ai pas tout compris, mais ce verset-là, ça m'a fait du bien, ça a apporté une grande paix dans mon cœur. Ce soir-là, j'ai pu dormir. Le lendemain, il était présent à l'église. Un don spirituel est apporté par une sœur qui ignorait tout de sa situation, de son parcours. Et cette sœur, de la part de Dieu, disait dans ce don spirituel, « Dieu a entendu ta prière. » Dieu a entendu que tu lui demandais grâce, que tu t'humiliais pour tes péchés. Dieu te fait grâce, Dieu te pardonne, tu es libre maintenant. Et vous voyez, il n'y avait pas besoin qu'on lui dise, mais ce jeune homme savait que c'était pour lui, que c'était une parole que Dieu lui envoyait, que c'était une parole de Dieu adaptée à sa situation, elle était prononcée à son attention. Et l'après-midi, voilà, il est ressorti déjà plus léger, et l'après-midi, il est revenu. Le soir, il accompagnait, plutôt sa famille l'a accompagné, il dormait, il mangeait souvent chez ses grands-parents, et d'un seul coup, dans la voiture où il se trouvait, il n'a pas entendu de voix, ce jeune homme n'a pas vu de vision, mais une présence extraordinaire a envahi cette voiture, une présence bienfaisante, il savait que c'était le Seigneur. Il lui avait demandé toute la semaine, « Seigneur, si tu es vraiment ce Dieu dont ma famille m'a parlé, si tu existes, je t'en prie, je suis tellement misérable, si tu le peux, pardonne mon péché pour que si je bascule dans l'au-delà, je ne sois pas condamné. » Et là, dans cette voiture, une présence bienfaisante, une paix extraordinaire, et il n'a pas entendu de voix, mais dans sa conscience, Dieu lui parlait, il lui disait, « Tu vois, je te pardonne, je deviens maintenant ton Seigneur et je vais utiliser ta vie. Ta vie qui a été jusque-là inutile et souillée, je vais la prendre en main et j'en ferai quelque chose d'utile. » Vous voyez, l'amour parfait bannit la crainte. Mais en même temps, pour revenir à ce que nous disions, il y a la crainte du Seigneur, nous l'avons dit, non pas la peur de la punition, ce n'est pas comme ça que Dieu veut traiter avec nous, il nous pardonne dans sa grâce, mais ensuite, il nous exhorte à considérer, à garder présent devant nos yeux ce qu'il est. Et alors, comment se manifeste-t-elle, la crainte du Seigneur? Eh bien, elle nous amène à nous détourner du mal. Dieu nous fait grâce, non pas à cause de nos bonnes actions, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés pour que personne n'en tire gloire, mais c'est par la foi seule en Jésus-Christ. Mais c'est vrai que lorsque nous expérimentons cette grâce, eh bien, voilà, elle nous amène à vivre différemment de ce que nous avons vécu autrefois. Et la crainte de Dieu que nous acquérons à ce moment-là, elle nous enseigne la sagesse et elle nous amène à nous détourner du mal. Et dans le livre des Proverbes, eh bien, très souvent, vous le relirez, Dieu, parce que lorsqu'il œuvre dans notre vie, il le fait de manière très pratique, eh bien, il nous met en garde contre certains penchants du cœur de l'être humain contre lesquels la sagesse nous prémunit, contre lesquels la crainte de Dieu nous garde. Par exemple, ça revient souvent, elle nous met en garde contre le piège de la femme adultère, de l'infidélité conjugale. Ça revient souvent. Pourquoi ? Parce que si la grâce de Dieu n'est pas à l'œuvre, hein, on voit bien dans le monde ce qui se passe autour de nous, bien aujourd'hui les valeurs de fidélité familiales sont bafouées, jetées aux pieds, parfois dans certains milieux. Vous voyez, la morale conforme à ce que la Bible enseigne est absolument ignorée, moquée, méprisée. Et le fruit, on le voit, ce sont des foyers qui éclatent, ce sont des gens qui se sont infidèles, ce sont les enfants qui, au milieu de cela, sont déchirés, etc. Et ça, c'est dans le cœur de l'homme. Hein, le Seigneur dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, etc. Et il y a besoin que la crainte de Dieu soit là. Comment se préserver contre ça ? Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Il faut que la crainte de Dieu soit là. Hein, on se souvient que Joseph, ce jeune homme qui était seul dans des circonstances difficiles, et en plus dans un endroit, des circonstances où il lui aurait été facile de succomber à cette tentation, a été gardé par cette crainte. Il avait la crainte de Dieu devant ses yeux, et lorsque la femme de Potiphar lui a proposé de coucher avec lui, c'est ce que la Bible dit, il a dit que Dieu me garde de commettre un si grand péché. Vous voyez, ton mari m'a donné tout ce que tout pouvoir, je peux toucher à tout ce que je veux dans cette maison, excepté à toi, que Dieu me garde de commettre un si grand péché. Et il a été ferme dans sa résolution. Pourquoi ? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et quand on la garde, cette crainte, elle nous garde à son tour. L'amour de l'argent, ça revient très, très, très souvent dans le livre des Proverbes. Il n'est pas question pour un chrétien de vivre nécessairement dans des conditions de pauvreté, mais c'est le fait de se confier dans les richesses qui, très souvent, est dénoncée par le livre des Proverbes. Salomon était un roi, c'est de lui dont Dieu s'est servi pour écrire une bonne partie de ce livre, qui avait de grandes richesses. Et tant que son cœur était en communion avec le Seigneur, tant que la crainte de Dieu le gardait, la richesse n'a pas été pour lui une occasion de chute. Mais ensuite, vous voyez, tout s'est précipité. Et l'amour de l'argent, bien, c'est ce qui nous pousse à être égoïste, à ne plus secourir personne, à utiliser nos biens comme s'ils nous appartenaient en propre, comme si nous devions les garder pour toujours. Et ça, c'est une grave erreur. Une grave erreur, et c'est même une idolâtrie, puisque la Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire si on s'est rendu coupable d'idolâtrie ? Il faut se repentir. Il faut se repentir et garder la crainte de Dieu. La paresse, curieusement, hein, revient régulièrement comme quelque chose contre quoi Dieu nous met en garde. Ça revient très souvent dans le livre des Proverbes. Tenez, je reviens à ce jeune homme qui s'est converti dans les circonstances que nous avons décrites. Quand il s'est converti, il avait envie de faire un tas de choses pour Dieu. Il avait envie de faire un tas de choses pour Dieu, et c'était louable. Puis, à un moment donné, dans sa vie, il s'est rendu compte que ce qui était bon et juste pour lui, et aux yeux de Dieu, c'est qu'il reprenne des études et qu'il les mène à leur terme le mieux possible, entre autres, pour honorer ses parents. Et il n'avait pas du tout envie de faire ça. Hein, il avait envie de faire un tas de choses, mais pas ça. Et cette conviction s'est imposée à son cœur. Et parfois, ce sont des choses comme ça que Dieu nous demande. Ça demandait du travail, ça a demandé de l'application. Ça a demandé, quelque part, de vaincre la paresse naturelle. Parfois, Dieu nous demande de telles choses. Et d'ailleurs, le fait d'honorer ses parents, eh bien, dans le livre des Proverbes, c'est très important aussi. Parfois, la crainte de Dieu nous amène à faire non pas forcément des choses qui brillent, qui sont visibles, elle nous demande parfois des sacrifices intérieurs dont on ne saisit pas tout de suite la portée, l'utilité, mais notre conscience rend témoignage que c'est ce que Dieu demande. Et puis l'intempérance sous toutes ses formes, c'est aussi quelque chose contre quoi le livre des Proverbes, de manière très très régulière, nous met en garde. Intempérance en parole, intempérance en parole, ne pas laisser libre cours à des paroles colériques, à des paroles trop vives, à des paroles médisantes. Et parfois, vous voyez, même le chrétien le plus expérimenté sent bien que dans son cœur, dans telles circonstances, parce qu'il a été poussé à bout, peuvent bouillir des choses là qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Mais parfois, la meilleure des choses, c'est de ne rien dire. Hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais la sagesse, quand elle ne parvient pas à calmer notre cœur suffisamment pour que tout ce qui y est à l'intérieur là, soit paisible, doux, en communion avec la paix du Seigneur, eh bien, elle nous amène à nous taire. Et c'est pourquoi il est écrit, « Même l'insensé passe pour sage quand il se tait. » Voilà, la tempérance au niveau des paroles. Et après, hein, c'est toujours possible. Voilà, c'est en tu de réfléchir à la manière dont on peut adapter sa conduite à telle ou telle situation. Intempérance sur le plan de la consommation de boissons alcoolisées, le livre des Proverbes en parle, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Il n'est pas question d'une abstinence totale, mais d'une tempérance dans ce domaine également, et puis tempérance dans nos réactions aux pressions de la vie. Voilà, la crainte de Dieu. Puis reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Quelques pensées encore qui apparaissent dans ce passage. Ça signifie, entre autres, lui être reconnaissant pour tous les bienfaits reçus. Nous avons chanté ce cantique « Compte les bienfaits de Dieu ». La crainte de Dieu n'est pas seulement quelque chose de négatif, s'abstenir, se détourner du mal, c'est important, mais aussi, eh bien, reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est le fait reconnaître que tout ce que nous avons reçu de bon, ça vient de lui. D'abord la vie éternelle, le fait de marcher différemment de ce que nous étions autrefois, c'est un grand sujet d'action de grâce. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, etc., etc. Merci Seigneur d'avoir dirigé les circonstances et d'avoir fait de moi un chrétien. Si nous avons la santé, bénissons Dieu pour cela. Si nous avons une situation sociale convenable, mais ça c'est un don de Dieu aussi. Voilà, si nous avons un bon foyer, c'est un don de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, une grâce qu'il obtient de l'Éternel, c'est écrit ça. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Merci Seigneur, c'est pas moi qui ai la force du poignet, mais par ma réflexion est amené ce que je suis, c'est un effet de ta grâce. Puis, reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est aussi reconnaître sa providence. Vous savez que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alors, lorsque tout va bien et il y a des bonnes choses, nous lui sommes reconnaissants. Et lorsque ça va plus mal, lorsqu'il y a des difficultés, eh bien, voilà, plutôt que de dire « Non, ça, rien ne va !» Disons « Dieu le permet, je ne sais pas pourquoi il le fait, mais s'il le permet, c'est qu'il poursuit quelque chose de bon. » Et même si je ne le comprends pas, même si mon intelligence et mon cœur n'arrivent pas à le saisir, néanmoins la foi me permet de le confesser. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, il y a ce verset curieux dans le livre des Proverbes. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Parce que je suis confronté aux actions méchantes de quelqu'un qui empoisonne ma vie, qui s'oppose à moi peut-être parce que je suis chrétien. Dieu le permet. Je ne sais pas ce qu'il peut en tirer de bon, mais Dieu le permet, c'est écrit, et il va faire concourir ces choses à sa gloire. Donc je demeure dans la foi. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est aussi lui exposer toutes choses dans la prière. Écoutez ce que le roi David disait, je raconte mes voies et tu m'exauces, enseigne-moi tes statuts. Puis encore, cette exhortation que Paul adressera à l'église de Philippe, voilà, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, avec des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse, la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Vous voyez, faire connaître tout ce que nous traversons à Dieu, Dieu le sait, hein, Dieu sait tout, mais c'est important pour nous de lui exposer les circonstances de notre vie. En lui apportant les difficultés que nous traversons, pour nous décharger d'un fardeau, de l'inquiétude, Dieu est capable de répondre à nos prières et de nous en délivrer. Il l'a fait parfois de manière étonnante, glorieuse. Mais même s'il ne le fait pas, il y a dans ce verset que nous avons cité une promesse très importante, c'est celle de bénéficier dans notre cœur de la paix de Christ. Elle surpasse toute intelligence. Vous voyez, parfois l'intelligence, nous l'avons dit, elle est utile, parfois elle s'emballe. Elle forme des scénarios qui nous pourrissent la vie. On s'imagine des choses et ça nous paralyse. On voit le pire arriver. Mais quand on fait connaître cette situation-là dans laquelle nous nous trouvons et qui nous pèse à Dieu, eh bien sa paix vient et nous garde. Je me souviens du témoignage de ce chrétien qui, dans le domaine professionnel, était confronté à une difficulté. Et c'était une difficulté potentiellement importante, et il était assis là dans son fauteuil, et il lisait la Bible, et voilà, il avait conscience qu'il ne pouvait absolument rien faire, absolument rien changer à cette difficulté. Il a simplement, dans une prière intérieure, alors qu'il lisait les Écritures, il a dit, Seigneur, tu vois, je t'apporte cette situation, je ne sais pas si tu peux faire, si tu veux faire quelque chose, mais tu peux le faire, tu peux le faire. Et d'un seul coup, là, alors qu'il était chez lui, c'est un moment tout à fait normal, bien, une paix est arrivée là dans son cœur. Ah, la paix de Christ. La paix de Christ. C'est comme si Dieu lui disait, ne t'inquiète pas pour cette affaire, je m'en charge. Et effectivement, dans les mois qui ont suivi, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, il n'y a pas mille petits doigts, et c'est Dieu qui a résolu les choses. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies, lui apporter nos inquiétudes dans la prière. Nous souvenir, c'est aussi nous souvenir que Dieu a des desseins parfaits, et que ces desseins sont parfois différents des nôtres. Ça nous conduit ça, à ne pas nous confier dans la sagesse de nos propres plans, de nos propres desseins. Ça implique aussi parfois d'accepter que nos projets soient bouleversés. Il est écrit, je cite toujours le livre des Proverbes là, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, ce n'est pas interdit d'en avoir, mais c'est le dessein de Dieu, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Et c'est pour cela qu'il nous est recommandé de recommander à Dieu nos œuvres. Et il est dit, et tes projets réussiront. Alors ça ne veut pas dire que nous sommes encouragés à n'en faire qu'à notre tête et à dire, Dieu, bénis-moi maintenant. Hein, j'ai formé ce projet, maintenant tu me bénis. Non. Ça veut dire que nous sommes encouragés à nous interroger, à réfléchir avant d'entreprendre quelque chose d'importance. Hein, il y a certaines décisions dans notre vie, nous sommes parfois à des tournants, des points clés, et il ne faut pas s'engager comme ça, il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps d'apporter les choses à Dieu, sans attendre nécessairement qu'il nous révèle sa volonté de manière surnaturelle. Non, parfois ça se fait naturellement. Mais ça n'empêche que, voilà, recommande à Dieu tes œuvres, Seigneur, voilà, est-ce que tu approuves, est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une bonne orientation pour ma vie? Et quand on s'est honnêtement interrogé, qu'on a apporté devant Dieu notre réflexion, bien très souvent, nous, à travers d'abord une conviction intérieure, le témoignage des Écritures le plus souvent, et la providence, bien telle ou telle voie s'ouvre, et quand on s'y est engagé après avoir eu le temps de faire tout cela, et avec une bonne conscience, eh bien le projet réussit, parce que Dieu le bénit. Et parfois, notre projet initial, on voit que Dieu n'est pas pour, Voilà, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, pas nos projets. Et quand on bifurque, quand on s'abstient de faire ce qui peut-être nous tenait à cœur pour faire autre chose, dont nous comprenons que c'est ça qui est bien, ou c'est mieux, bien Dieu nous bénit. Et c'est ça aussi, reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Et comme nous le disions tout à l'heure, pas forcément des choses qui sont visibles, éclatantes. Je reviens au témoignage de ce jeune homme qui avait repris ses études. Voilà, hein, c'était un long chemin, difficile, et ça pouvait sembler bien, bien futile, dérisoire, et Dieu l'a béni. Encore deux pensées. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est méditer sa parole et nous tenir devant lui pour recevoir son intelligence. Il nous a dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix ? Sous-entendu, pas sans l'aide de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Il y a des choses qu'on ne voit pas, on ne les perçoit pas, elles sont cachées. Mais régnant dans la vie avec Christ, par Christ, lui seul, on peut sonder, réfléchir et comprendre. Hein, c'est Dieu qui nous aide. C'est aussi, et enfin, lui confier notre cause, reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Et ne pas perdre notre calme quand nous sommes aux prises avec l'adversité et l'opposition. Et en tant que chrétien, inévitablement, un jour ou l'autre, nous rencontrerons de l'opposition, de l'adversité, de la part de la vie, nous en avons parlé, mais aussi des hommes. Et là, eh bien, toute l'Écriture, et notamment encore le livre des Proverbes, cette crainte de Dieu, nous enseigne. Et Dieu dit, ne dis pas, je rendrai le mal. Ne dis pas, je rendrai le mal. Et ça, personne n'est exempt de ça. Vous voyez, il y a dans le cœur de tout homme cette loi qui est inscrite. On me fait du mal, j'ai envie de rendre le mal. C'est vrai ou pas ? Même le plus doux, le plus humble, vous le poussez dans ses retranchements, vous lui faites subir une injustice à la main des hommes, vous faites subir une injustice à ses proches. Son cœur, là, va se remplir du désir de vengeance. Même le plus doux des hommes, même si ça ne transparaît pas à l'extérieur. Non, ne dis pas « je rendrai le mal ». Espère en l'Éternel, et il te délivrera. Vous voudriez qu'on prenne le temps simplement pour cette dernière pensée de lire deux textes. Le livre des Proverbes, je vous encourage à lire avec moi le chapitre 24 et au verset 17. Proverbes chapitre 24 et le verset 17. Proverbes chapitre 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Voilà, c'est curieux comme verset, ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quel que soit ce que quelqu'un nous a fait, jamais le cœur du chrétien ne doit aspirer à voir le mal rendu pour le mal. Ce verset nous dit même si un chrétien était amené à éprouver de tels sentiments et à les entretenir, bien Dieu dit, ça déplaît à Dieu. Ça déplaît à Dieu. Et quand Dieu dit, je détournerai ma colère de ton adversaire, ça veut dire que Dieu agit comme nous. C'est un moyen pédagogique de Dieu pour nous faire comprendre que, voyez, si nous souhaitons le mal, eh bien, Dieu ne le tolérera pas. Non, il y a une voie bien plus excellente. Proverbes chapitre 25, verset 21. Proverbes chapitre 25, verset 21. Il est écrit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Quand il est question d'amasser des charbons ardents sur la tête de l'adversaire, ça ne veut pas dire que nous amassons, que nous agissons pour qu'il lui arrive du mal. Pas du tout. Non. Ça veut dire que nous agissons en rendant le bien pour le mal, en nous confiant en Dieu qui, s'il le juge bon, peut châtier un injuste pour son injustice. Dieu peut le faire. Mais Dieu peut aussi lui faire grâce. et l'amener à se détourner de son injustice, c'est ce que nous souhaitons. Vous voyez, par exemple, je pense à toute une famille qui habitait dans une campagne, on faisait contre elle un trafic occulte, le bétail mourait, etc. Et ils se sont tournés vers le Seigneur, ils se sont convertis, ils ont connu l'Évangile, et eux n'ont pas demandé ça. Mais quand ils croisaient la personne qui était à l'origine du trafic occulte, eh bien, la personne les évitait, changeait de trottoir parce que c'était chez lui que le bétail mourait, que la malédiction était revenue. Vous voyez, Dieu parfois peut intervenir dans ce sens. Mais ce n'est pas ce qu'ils avaient demandé. Si quelqu'un nous fait du mal, eh bien, employons-nous à d'abord à garder notre cœur. Seigneur, garde-moi de pensées de rétribution, de vengeance. Je me confie en toi. Agis comme il te semble bon. Seigneur, si tu veux rendre le fruit de ses voies à cette personne, tu es juste. Mais Seigneur, même si je me garde, même si je me préserve, il n'est pas question, c'est pas de se fourrer dans la gueule du loup, c'est pas ça non plus que Dieu nous demande. Mais Seigneur, cette personne-là qui m'a fait tant de tort, et tu peux aussi la bénir et lui faire du bien. Et quand ces sentiments-là sont dans notre cœur, en tout cas pour nous, parce que nous sommes responsables de nous-mêmes et pas de ce qui arrive aux autres, eh bien pour nous, c'est une bénédiction, parce qu'il est écrit « L'Éternel te récompensera ». Ça, c'est une promesse sur laquelle nous pouvons compter, sur laquelle nous pouvons être fermement établis. Voilà, on arrive à la fin de notre méditation. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et puis là aussi, il y a une promesse glorieuse, elle englobe tout ce que nous avons dit. Reconnaître Dieu dans nos voies, garder sa crainte, tout ce que nous avons dit dans tous ces domaines. Et Dieu aplanira tes sentiers. Vous voyez, notre vie est parfois parsemée d'embûches et d'obstacles. N'est-il pas vrai? Bien, si nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies, les difficultés ne disparaîtront pas toutes, mais le sentier sera aplani. Hein, il sera plus facile. Nous aurons l'aide du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a une espérance qui nous est réservée dans les cieux. Notre espérance n'est pas ici. Nous cheminons, un petit peu comme Israël, hein, en route vers un héritage promis, de la même manière que la nuée accompagnait Israël, le jour, une nuée, la nuit, comme un feu, et le Seigneur nous garde. Dans les moments de bénédiction et dans les moments de difficulté, c'est lui qui est présent. Reconnaissons-le dans toutes nos voies pour que sa grâce demeure en nous et avec nous. Que le Seigneur nous bénisse.